Nous allons entendre maintenant Charles Ciau, professeur émérite de sociologie à Nantes. Et Charles Ciau
qu'est-ce que tu veux dire ?
Je ne vais pas énumérer tous ces titres, etc. Mais au moins un titre. C'est pourquoi je voulais qu'il soit le premier à parler maintenant. C'est que, en raison de l'ancienneté dans le Centre de sociologie européenne, il était présent dans les années 60. C'est quelqu'un qui a participé à beaucoup de choses.
Fin 69, des années 60. Hein.
Oui, mais tu lisais un peu avant les travaux. Je sais pas, tu l'as pas découvert.
Oui.
Bon, de ce point de vue-là, au titre de l'ancienneté, sinon je vois pas au nom de quel critère j'aurais été partagé avec Bernard Pudal. Voilà, on lui donne la parole et ensuite donc Bernard Pudal. Qui est professeur émérite qui s'est consacré à la science politique et notamment à l'étude du communisme. Voilà la parole à Charles.
Bon, Louis, un grand merci pour cette invitation. Au début, on s'est dit, bonne construction de l'objet, qu'est-ce que je vais dire ? Alors, je voudrais justement cette communication sous les auspices de Palinos. Palinos est un architecte du VIe siècle, de la période de grande période grecque, et à qui Paul Valéry, dans un essai sur la création, fait dire « À force de construire, je crois bien que je me suis construit moi-même ». Et c'est un peu autour de cette idée que je voudrais venir. Bon, parce qu'effectivement, Louis, là, tu as eu un peu, du culot de proposer une notion qui, pour bien des collègues, paraîtrait peu digne d'être traitée par des chercheurs chevronnés, etc. C'est bon pour le début. Et ça m'a fait penser à ces Goffman qui dit quelque part que dans certaines casernes, les officiers étaient dispensés de gym, puisque par nature, ils avaient un corps performant, etc. Et je pense qu'on pourrait dire, c'est pareil, les sociologues confirmés, ils n'ont pas à revenir, puisque par nature, ils savent construire des objets. Passons à des choses sérieuses, quoi. Bon. C'est comme si tu proposais à des officiers de refaire leur classe. Alors, c'est pas tout à fait ça, justement. Bon, parce que je pense que ça fait vraiment partie du travail tel qu'on a appris à le faire, que de revenir constamment sur cette notion de construction. Et peut-être même cette urgence est d'autant plus grande que le temps s'écoule. Bon, parce que finalement, notre travail de sociologue se fait toujours à la frontière du réflexif, mais aussi de plus en plus, je dirais, de pré-réflexif. Alors, si le pré-réflexif devient du réflexif incorporé, c'est pas trop grave. Mais on pourrait se dire que, au fur et à mesure, on commence une enquête nouvelle. On dit tiens, tout de suite, je vais interroger un tel. On a des réflexes de recherche qui pourraient, à la limite, nous dispenser de toute la part vraiment réflexe. Donc tout ceci pour dire que c'est pas un exercice de scolaire coupé, bon, artificiel, que c'est un véritable travail auquel tu... Et alors, justement, moi, j'ai été sensible au texte d'annonce où tu énonces cette idée que la construction peut devenir... Il y a un effet de routinisation, quoi, de questions qu'on ne se pose plus. Et justement, par rapport à l'effet générationnel, j'étais peut-être particulièrement voué à cette routinisation parce que moi, j'ai appris la fameuse rupture épistémologique dans un cadre strictement scolaire, puisque le métier de sociologue n'était pas, c'est Passeron qui enseignait ça à Nantes, le métier de sociologue n'était pas paru, donc on n'avait pas le rapport au livre, c'était le rapport à la parole magistrale, quoi. Donc toutes les raisons étaient remplies pour que je reçoive ça comme une injonction scolaire. Il faut, il faut faire la rupture, etc. Bon, alors j'étais un peu prémuni puisque dans le bon, grâce à Vincennes, etc. Dans la foulée, j'ai passé une année au CSE, donc effectivement très rapidement, où là j'étais à une école qui me prémunissait en quelque sorte contre, surtout à l'époque, contre cette idée. Mais à la longue, moi je dis effectivement ce, pour préparer ce topo. Bon, alors je dis pas que j'ai tout redécouvert le monde, mais ça m'a amené quand même à m'interroger sur la manière dont moi-même je l'avais vécu, un peu comme une opération intellectuelle, je dirais, discontinue. Au coup des, je construis mon objet, et puis à l'enquête suivante, je construirai un autre. Alors c'est ça que je voudrais remettre en cause, enfin pas remettre en cause, mais changer de point de vue. Et ce que je propose, c'est justement de penser la construction d'objets en changeant d'échelle de temps et d'échelle spatiale de groupe dans lesquels la recherche se fait. Alors d'abord, changer d'échelle de temps, ce qui veut dire que là je pars de l'hypothèse que le travail de construction de l'objet, à la fois dans ce qu'il a de réflexif, mais peut-être plus encore dans ce qu'il a de pré-réflexif qu'on ne contrôle pas très très bien, hein, c'est que cette construction d'objets est solidaire d'une construction sociale et intellectuelle du sociologue. C'est-à-dire, bon, on a beaucoup posé le problème de l'engagement du sociologue dans sa construction d'objets, donc la question dans ce sens-là, on l'a abondamment, etc. Je voudrais poser la question dans l'autre sens. Est-ce que c'est le fait de toujours poser la question dans ce sens, nous a presque occulté la question inverse, c'est-à-dire comment à chaque construction d'objet, on se construit comme sociologue, et ça pourrait être une question purement idéaliste, quoi. Bon, parce qu'on réfléchit, on se... Bon. Mais je pars de l'idée que s'il en va de l'acte de la connaissance sociologique d'agir sur la réalité sociale, ne serait-ce qu'en en dévoilant les relations inconscientes, il devrait, ce travail-là devrait aussi contribuer à fabriquer le sociologue comme agent social, etc. Donc c'est cette démarche et ce changement d'échelle aboutit un peu à un déplacement de point de vue dans la manière de lire les travaux. C'est-à-dire, on passerait d'une logique de lecteur, pour reprendre une opposition de Bourdieu, où alors là, on chercherait la fameuse cohérence entre toutes les recherches, voir les ruptures, Bourdieu 1, Bourdieu 2, Bourdieu 3, etc. Donc, ça oblige à passer de cette logique-là à une logique de docteur, quoi. C'est-à-dire, comment un sociologue se construit avec tous les aléas aussi, là, j'en dirai un mot tout à l'heure, j'étais amené à faire une enquête qui, pour moi, était très importante, que j'avais absolument pas programmée, hein, mais c'était une histoire de curé encore, qui était arrivé au centre en disant « les curés, c'est suo », etc. Bon, finalement, de cet aléa, j'ai pu en faire quelque chose d'important en termes de construction d'objets. Bon. Donc, c'est pas qu'une question psychosociologique sur le sociologue, c'est véritablement un véritable travail de construction à la fois d'objet et via l'objet de. Et donc c'est pour ça que je vais poser d'abord le problème à l'échelle du temps et puis après à l'échelle des groupes. Naïvement, le premier plan que j'avais proposé est fait de déférences stupides. J'allais dire, je vais commencer par Bourdieu, puis après, quand même, on va pas parler de Suo après. Bon, c'est complètement idiot, parce que ce que j'ai à dire sur Bourdieu, c'est à partir de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai fait. Hein. Donc, c'est plus qu'évident qu'il faut que je parle de mon expérience, bon, et non pas décréter... bon. Mais comme quoi, hein, on est pris au piège de tous ces effets d'institution qui viennent se cacher là, etc. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que construire l'objet veut dire quand on prend l'échelle d'un parcours, quoi, d'une succession de travaux, etc. Alors, justement, en ce qui me concerne, ça m'évoque cette notion de construction d'objet, la panade théorique dans laquelle j'étais lorsque j'ai commencé ce travail sur les curés, sur la vocation. L'effet de livre, après, tout paraît clair, etc. Moi, je me souviens fort bien que le premier mot qui m'avait accroché, parce qu'au début, je voulais un peu travailler sur militantisme. De militantisme, j'étais passé à engagement. Engagement qui est une notion d'institution par excellence. C'est pas mon voisin qui bon. Donc je fonctionnais avec des notions, j'allais dire, pas cléricales, mais quasiment. Bon. Et donc, cela veut dire que c'est par le travail que progressivement les choses se sont déplacées, mais se sont déplacées de manière très compliquée. Bon, parce que mon obsession à l'époque, c'était la parution de l'esquisse de la pratique qui venait de sortir. J'avais déjà rédigé une première écriture de thèse avec un facteur objectif, deux, intériorisation. Bon, j'ai tout foutu à la poubelle en disant c'est intenable quand j'ai lu ce livre. Donc voilà, en disant je refais tout. Bon. Donc avec les phénomènes d'intériorisation, etc. Donc, et c'est progressivement, et là où je veux en venir, c'est progressivement que j'en suis venu à penser que l'objet premier c'était le corps, et qu'à partir de cette transformation du corps, l'institution opérait un transfert de consécration, d'une consécration scolaire vers une... Mais ça, c'est après coup. Et justement, en réfléchissant, je me suis dit, mais parce que j'ai été à la suite de ce travail qui pourtant mettait le corps au premier et qui paraissait de manière évidente, eh bien j'ai mis, pas 10 ans, mais 5 bonnes années pour m'approprier cette petite découverte pédagogique personnelle, pour me l'appliquer à moi-même intellectuellement, c'est-à-dire pour l'assumer d'une manière véritablement sociologique. Ce qui fait que le travail suivant sur la vocation, c'était un travail sur des militants, j'étais encore sur la notion d'engagement. Bon, et donc les conditions sociales, bon, etc., comment on vient à l'engagement, tout ce qu'on veut. Mais le corps était encore... Autrement dit, il m'a fallu plusieurs années pour que cette première construction d'objets me transforme moi-même, et il y avait des raisons à cela, à cette espèce d'effet de latence, c'est qu'étant moi-même ayant eu cette inculcation institutionnelle, c'est-à-dire il m'a fallu que ce travail sociologique me permette d'assumer aussi cette inculcation corporelle que j'avais eue pour en faire véritablement un objet. Et c'est que par jeu, justement. Et c'est là où l'idée à laquelle je veux venir, c'est qu'au fur et à mesure, justement, les enjeux intellectuels se sont autonomisés un peu par rapport aux enjeux d'autoconstruction sur le plan proprement biographique, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est en transposant au sport, c'est pas la transposition en elle-même, mais c'est l'effet de jeu. Alors, qui pourrait être un jeu scolaire, on peut l'appeler comme on veut, hein, ou par provoque, parce que j'ai jamais fait de sport de haut niveau, etc. Et je partais du principe suivant, je travaille sur des virtuoses religieux, les curés, qu'est-ce que je trouve? Donc, pour que ce travail symbolique soit fait, soit effectif, je tombe sur le corps, transformation du corps, etc., c'est pareil. Eh ben, je vais faire l'inverse. Hein, je vais m'intéresser à des gens qui sont des virtuoses physiques, performances, etc. Et je veux savoir tout ce qu'il y a de travail symbolique nécessaire pour pouvoir rendre le corps... Bon. Alors ça a été déjà déterminant, ce jeu, parce que m'a fait quand même autonomiser cette notion d'incorporation du social qui devenait une question pour elle-même. Bon. Et c'est là où l'effet de hasard, mais c'est là où, après tout, c'est aussi s'approprier le hasard, quand, à la suite de la misère du monde, les prêtres ouvriers sont tombés à Lille, etc., en disant, et comme des gamins à Noël, en disant « Ah, on veut ça, nous aussi ». Autrement dit, on voudrait faire ça pour nous. Bon. Alors, question, bon, parce qu'il fallait aller voir le Ricard chez les prêtres ouvriers, etc. Bon, Suo va aller là-bas. Bon. Donc, je vais là-bas, qu'est-ce que je viens faire? Et là, du coup, les choses s'accélèrent, parce que sur le plan à la fois intellectuel, c'est-à-dire, après avoir fait ce basculement sur le sport, or, là je refaisais en me disant, les prêtres ouvriers, c'est un objet en or, parce que ça va m'amener aussi à poser des questions nouvelles, c'est-à-dire comment des prêtres qui ont incorporé l'habitus hyper classique dans un premier temps, donc première conversion, vont être amenés à la suite d'événements et de processus qu'il faut analyser, à une seconde conversion, justement, qui les rapproche, autrement dit, contrée par le, et l'hypothèse que je me suis dit, mais bon sens, c'est bien sûr, c'est-à-dire des prêtres qui deviennent ouvriers, ils vont effectuer par le corps les contre-incorporations que le séminaire, de manière classique, leur a fait, etc. Et effectivement, c'est ce qui, donc c'est ce qui m'a permis de construire cette affaire-là, et en même temps, ça fait avancer le schmilblick, parce que ça pose la question, la fameuse question, du côté l'irréversibilité des incorporations. Bon, parce que là, ça voulait dire première conversion, et puis deuxième conversion, et c'est là où les choses sont beaucoup plus compliquées, parce que, par exemple, là, l'un des constats auxquels on arrive, c'est devenir ouvrier pour un prêtre, c'est un choix de prêtre. Ça n'a rien à voir avec le fils d'ouvrier qui devient ouvrier. Bon. Donc, il a fallu, justement, comprendre comment se mettre en situation de se transformer le corps, ainsi, était finalement un projet religieux et un projet de prêtre, cette double conversion. Et puis, tardivement, on est revenu, finalement, sur le sport, mais cette fois-ci, en poussant le plus loin possible cette notion de double incorporation, puisqu'on incorpore à la fois des règles universelles et des règles des habitus corporels très sociaux, etc. Bon. Donc, c'est dire que c'est une espèce de progression de construction d'objets que je peux pas autonomiser à une enquête particulière, hein, chaque enquête venant, etc. Alors, là, je vais juste évoquer, parce que le temps passe, ce que, finalement, j'étais parti de là, ce que j'avais fait sur le parcours de Bourdieu. Finalement, cette journée m'amène à tenir ensemble deux contributions complètement séparées que j'ai eues. C'était une première contribution, c'était une colloque sur corps et formation, etc. Je m'étais amusé, justement, à transposer à Bourdieu la double conversion des prêtres ouvriers. Et j'avais même, en troisième temps, à Juquin. Juquin était associé à cette... Mais si, à partir de... machine, là, comment il s'appelle. Bon, bref. Bon. Pour Bourdieu, j'allais dire, c'est très impressionnant, l'hypothèse de la double conversion des prêtres ouvriers. Bon, parce qu'il y a cette première conversion, et là je me base sur l'esquisse, bon, où d'une part il met ce passage donc de philosophie à sociologie sur le compte d'événements très physiques, de même que les prêtres ouvriers ont été très secoués par la guerre, par des situations improbables dues à la guerre, à se retrouver avec des prisonniers, etc. Bourdieu explicitement en disant l'événement central c'est l'Algérie. C'est-à-dire quand physiquement j'ai été sommé d'être dans des situations d'enquête où sur la question que je posais, à la limite, ma vie était presque en danger, quoi. Autrement dit, et en même temps cette idée d'étouffement suite à la première conversion dans cet espace qu'il vit comme étant coupé des enjeux sociaux, etc. Et de même que l'expression est « les prêtres ouvriers disaient « on veut être prêtre, mais autrement », Bourdieu disant « on veut être philosophe, mais autrement ». Et deuxième conversion, première conversion, c'était de laïc, si je puis dire, à philosophe, et la deuxième, c'est de philosophe à sociologue. Il faut pas oublier la première conversion comme philosophe, hein, c'est très important. Et il emploie vraiment deux mots qui sont ultra utilisés, on parlait tout à l'heure du langage des agents, deux mots que je trouve très présents chez les prêtres ouvriers, c'est le mot conversion et le mot intuition. Donc, il associe par la suite ce passage aussi à l'enquête sur le Béarn, très important, hein, un choc aussi, autant intellectuel que physique. hein, l'enquête sur Robert, a été l'occasion et l'opérateur d'une véritable conversion. Le mot n'est sans doute pas trop fort pour désigner la transformation à la fois intellectuelle et affective qui m'a conduit à de la phénoménologie de la vie affective à la position plus distanciée, etc. Donc là, j'insiste sur cette notion de transformation à la fois physique et intellectuelle, sur la participation que le travail symbolique proprement intellectuel peut aussi et alors donc ça c'était le premier volet que j'avais fait, et puis un deuxième volet, je ne sais pas si un jour ça verra le jour, j'ai aucune information, c'est les contributions au fameux dictionnaire Bourdieu, c'est peut-être pas ce qu'il aurait aimé le plus, bon j'en sais rien. Donc là j'ai été amené à travailler sur chants religieux, on m'a proposé de faire chants religieux. Donc j'ai fait une fiche chant religieux, les transformations du chant religieux. Mais ces deux projets, donc c'était deux commandes complètement différentes. Et là, à l'occasion de cette journée, je me suis dit, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est qu'il faut penser les deux en même temps. Il faut penser comment cette élaboration progressive du chant à la fois participe de cette mise en condition très physique et intellectuelle, etc. Et en même temps, comment Bourdieu se fait progressivement, comme intellectuel aussi, c'est l'hypothèse que j'ai, à l'aide de la notion de chant. Bon, alors, j'ai pas le temps, j'évoque les phases. Bon. Premièrement, au début, vous lisez la sociologie de l'Algérie, ça n'a rien à voir. Bon, le chant, là, c'est quasiment de l'esprit hegélien. Hein, la religion historique est une des formes de la conscience que la communauté prend d'elle-même. Ah ben, si vous trouvez le champ là-dedans, non. Autrement dit, quelle est l'instance où cette totalement absent. Les choses vont commencer avec justement l'esprit créateur et puis philosophie et sociologie. Première lecture de Weber, qui progressivement va arriver à la notion de champ, hein, mais où c'est la phase où Bourdieu, et finalement c'est la phase où Bourdieu est plus axé sur habitus avec Panofsky, l'habitus comme intégrateur d'un espace et créateur en même temps, mais il n'est pas dans une logique de vraiment de position encore. Il décrit là alors même si c'est champ intellectuel et projet créateur, le champ c'est un lieu où il y a des forces contraires, etc. Ça va pas plus loin. C'est donc quelques années plus tard avec les deux fameux articles, mais très intéressants. Le premier article sur Weber qui est intitulé Interprétation. Et là, moi, là, effectivement, on voit Weber, Bourdieu travailler le crayon à la main, quasiment. C'est quasiment une explication de texte. On le voit, il raye, il met, etc. La même année, il fait le deuxième Jeunesse et structure, où là, ça n'a rien à voir, où on passe d'une lecture interactionniste encore, premier texte, à une lecture. Et je me dis que, justement, c'est le moment stratégique où Bourdieu est en train de faire sa position. Donc là, il passe d'un espace un peu interactionniste où des forces interviennent, etc., à des analyses de division du travail, de type de capital, et des positions qui sont des positions, là, du coup. Donc là, et parallèlement, tout ça, derrière tout ça, c'est un travail collectif. Et il se trouve que j'ai retrouvé, là, je participais à l'époque, au fameux séminaire du mardi soir de la rue d'Ulm. Bon. Et j'ai retrouvé les notes sur prêtres, sorciers, donc on est en 68. Alors, grosse discussion, qu'est-ce qu'on va faire de cette typologie? Est-ce que c'est valable que pour l'économie? Vraiment en train de défricher cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et il se trouve que ce soir-là, le dernier à intervenir, c'est Passeron, qui dit, donc on est en 68, il n'y a pas eu encore les articles, il dit une lecture structurale, parce que Bourdieu proposait un peu une lecture, une lecture structurale de Weber est très interprétative. Bourdieu analysera son premier article, une interprétation de Weber. La lecture de Bendix, qui est un type qui fait des typologies pas très intéressantes, est réductrice, mais les propriétés étudiées par Weber sont au moins relationnelles. Ce qu'il n'y a jamais chez Weber, c'est la notion de champ. Et ça, c'est Passeron qui finit la soirée là-dessus. Pour dire qu'il y a toute cette atmosphère de recherche, c'est pour ça que ça demande en même temps du temps. Et moi, je fais l'hypothèse que ces notions de champ s'élaborent à la fois d'un point de vue de progression intellectuelle, quoi, de questionnement, mais qu'en même temps, il y a en retour cet effet de construction. Donc Bourdieu s'est saisi d'une sociologie weberienne restructurée, progressivement, ces notions de champ perdront complètement tous ces gens, là j'ai employé l'expression, ça devient une théorie formellement libre, c'est-à-dire un peu détachée de tout phénomène de construction de position, ça c'est acquis, etc. Et ça devient un phénomène général pour élaborer les champs de production symbolique qui vont alimenter donc de manière extrêmement fouillée, ou même chez Manet, la carte devient presque à la dimension du pays, on colle à chaque... Et justement, en réfléchissant à ça, cette progression, ça m'a rappelé l'un des conseils souvent que Bourdieu me donnait, mais aux autres aussi, en disant, si vous faites ça, par exemple, la religion, c'est pas que de la com, c'est du rapport de force, etc. Si vous faites ça, vous allez gagner du temps. Souvent, c'était en disant, faites ce que je vous dis, vous allez gagner du temps. Eh bien, du temps au sens où, effectivement, si on peut faire l'économie, et la pédagogie est peut-être due à ce rôle-là, en disant, vous ne morfondez pas trop longtemps dans ce type de questions, ça ne va pas apporter grand-chose, allez-y, et puis, bref. Donc, construire dans le temps, mais aussi construire en relation avec des groupes. Donc le travail sociologique comme travail collectif. Alors là, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était l'expression après la mort. Il y a eu plusieurs livres. Gérard en a fait un autour de travailler avec Bourdieu. Alors à la fois c'est très amusant et parfois un peu triste de voir un peu parce que souvent j'allais dire il y a des topos qui sont vraiment, je pense au topo d'Encrevé par exemple, qui raconte vraiment comment il s'est bagarré avec Bourdieu pour dire mais là vous voyez que le problème du côté du locuteur etc. Je pense pas qu'il soit là. Brillant, où c'était plus proche de moi, plus proche de Bourdieu, tu meurs. Travailler avec Bourdieu, c'était montrer. Moi, par exemple, travailler avec Bourdieu, c'est travailler avec Boltanski, avec Champagne, avec De Saint-Martin. Certains représentants sont là, Louis, Marchetti. Autrement dit, pour moi, travailler avec Bourdieu, c'est travailler avec un groupe, avec Gérard. On ne s'est pas tellement finalement croisés dans cette affaire-là. Donc, la question que je me pose, c'est quelles sont les causes qui, justement, nous poussent, à individualiser à mort. Donc là, c'est vraiment l'état du champ, l'état des pressions. Qu'est-ce que c'est qu'une carrière ? Alors, on pourrait dire construction d'objets et carrière sociologique. Il y aurait tout un sur les conditions de travail et cette individualisation c'est presque là j'emploierais la notion qu'il emploie dans Jeunesse et Structure pour le charisme, cette notion d'idéologie professionnelle, c'est-à-dire l'idéologie du prophète, c'est une idéologie professionnelle puisque il est sommé par sa position de jouer le prophète, etc. Il y a aussi le fait des lectures collectives qui sont faites. Ça tombe très bien parce que Daniel Gaxi est là. Tout le travail qu'on... Parce que là, c'était un vrai travail collectif qu'on avait fait sur la représentation. Bourdieu avait fait un texte théorique. Moi, j'avais fait le mythe de la base. Et c'était un séminaire, etc. Bon, ben, par la suite, bon, par exemple, le mythe de la base, ça passe complètement. Bon, autrement dit, il ne reste que la partie, autrement dit, on retient plus facilement la partie plus théorique que les parties plus empiriques. Donc, il y a un problème de lecture. Autrement dit, penser la construction de l'objet comme une lecture collective entre collègues, la manière, un peu ce que Chamboreton avait fait pour Millet, comment Millet est très largement fait par les critiques qu'on fait de lui, qu'on lui renvoie, et il se construit aussi comme ça. Bon. Bref, autrement dit, là, il y a tout un objet avec nos disciplines différentes, avec... bon, voilà. Et... pour terminer, je vais terminer sur deux remarques de Noiriel dans Penser avec, penser contre. Il fait allusion à deux constats qui sont complètement branchés sur la construction de l'objet. Le constat de, dit-il, de, il met en lien deux échecs. L'échec de Weber de constituer une société allemande de sociologie, il y a des tensions, ils n'arrivent pas à se faire comprendre en disant « ils n'ont même pas compris les questions que je veux poser », bilan, ils démissionnent. Et dans le, un peu dans le prolongement, en disant « mais il y a aussi un autre échec, c'est l'échec de Bourdieu-Passeron par rapport à ce qu'ils annonçaient dans le... alors là, il se réfère d'abord au métier de sociologue, qui est très intéressant, parce qu'à relire le métier de sociologue, il n'y a pas une fois le mot « champ ». Il est question de communauté savante et de cité savante. Ça n'a rien à voir. Et s'il est vrai que l'histoire de la science sociologique est scientifique dans la mesure où elle ne se réduit pas à une histoire sociale de la science, c'est toujours la communauté savante et jamais le chercheur singulier qui est le sujet de cette histoire relativement autonome. Et après, il s'interroge sur les facteurs qui contribuent à accroître les chances de scientificité d'une communauté scientifique, hein, et des chances que chaque savant a de bénéficier à cette... Et d'un autre côté, il se réfère au dernier cours du collège, ou alors là, Bourdieu, bon, j'avoue que je ne sais pas trop quel sens il faut donner, quand Bourdieu parle d'un échec indiscutable du groupe qu'il a voulu, dans lequel il a voulu travailler, formé de gens, dit-il, d'un ensemble d'individus relégués dans des positions universitaires secondaires, marginales ou mineures. Et alors, la chose est un peu atténuée dans l'esquisse pour une où l'échec indiscutable devient un échec relatif. Autrement dit, est-ce que c'est justement par contraste entre la cité savante telle qu'elle était formulée dans le métier de sociologue et puis l'état d'un champ bon, qui est divisé, qui est comme on sait, etc., peuplé de gens bourrés de bonnes intentions envers leurs collègues, etc. Hein. Donc, finalement, c'est peut-être moins l'idée d'arriver sur un échec que de s'en tenir, autrement dit, à l'état du champ, avec ses divisions, ses tensions, ses concurrences, ses coups bas, tels que ça fonctionne par les temps qui courent, et parfois, les coups bas peuvent être vraiment très, très, très bas. Alors, il y a une deuxième remarque avec laquelle je ne suis pas trop... Ils feraient comme si, justement, dans leur projet d'échec de faire advenir une cité savante, Bourdieu s'était, il le dit quasiment explicitement, s'était transféré de la cité savante vers l'intellectuel collectif. Bon. Moi, il me semble que ça n'a rien à voir entre la cité savante et l'intellectuel. Bon, autrement dit, là, je trouve que ce constat-là, pour moi, ne tient pas, parce que même si c'est autour du métier de sociologue, ça se réfère pas du tout aux mêmes actes du métier. Hein, ou alors, si on en croit Noiriel, il faudrait faire rentrer dans l'objet sociologique le projet de faire entrer l'objet sociologique dans la réalité sociale. Bon, ça devient quand même... bon, mais parfois, c'est des idées qui peuvent peut-être affleurer. Bon. Et alors justement, bon, j'ai fini. Je voudrais terminer par un petit exercice pratique. C'est comment qualifieriez-vous l'Assemblée d'aujourd'hui ? Est-ce que c'est bon un groupe minoritaire dans un champ de plus en aux limites de plus en plus incertaines? Est-ce que c'est une position, une des positions structurantes autour desquelles s'organise le champ et en met en perpétuelle transformation? Ou là, je pense aux deux pages que Le Monde a failli, ce que j'appellerais une instance de passage entre un passé qui nous a fait, un passé extraordinaire, bon, qui nous a fait, et que les nouvelles générations, je pense au témoignage qui était fait dans Le Monde, là, aux nouvelles générations de chercheurs considèrent comme une tradition devenue classique, et qui demande à être enrichi et sans cesse réinventé au sein d'une discipline devenue sans maître. J'ai fini.